prêt à partir à l'aventure et à entendre du pays?
Hippipipora vous emmène à la découverte des lieux emblématiques de la région la plus insolite de France, Auvergne-Rhône-Alpes.
Suivez-nous à travers champs, lacs et montagnes, plaines vallonnées et chemins escarpés.
L'herbe s'efface bientôt et laisse place au pavé des villes et villages.
Alors, entre bribes d'histoire, coutumes, rencontres, anecdotes et moments de convivialité,
laissez place à l'authenticité.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hippipipora. Aujourd'hui, je suis accompagné de Hugo et on va vous faire la visite du château du Max. Salut Hugo.
Alors, salut Yvan. Alors, aujourd'hui, effectivement, on va visiter le château du Max. Château qui se trouve dans l'Allier. Pour vous situer un petit peu, donc c'est à côté de Moulins, un petit peu en dessous.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Dis-nous ce que tu peux voir, Yvan, autour de toi. Alors déjà, ce que je vois, ce qui me frappe direct, c'est le grand marronnier qui m'accueille à l'entrée du château. Et après, donc, tout de suite, on tombe sur le château qui est assez bien conservé en l'état. Et là, donc, nous allons rencontrer notre intervenant, Jacques Mazet. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'architecture de ce château?
Alors, ce château, il est un petit peu atypique comme certains autres châteaux du Bourbonnais parce qu'il y a différentes époques, en fait. Vous avez une partie donc du XIIIe siècle, c'est plutôt les caves et c'est plutôt une partie de la grande tour qu'on appelle également le donjon. Pour le reste, c'est plutôt de la Renaissance du XVe siècle, y compris d'ailleurs pour le Châtelet, parce qu'en fait, il y a eu un incendie en 1450 qui a ravagé une grande partie du château. Et il y a un petit peu également de XVIIIe siècle, que ce soit sur le Châtelet, sur la grange et les anciennes écuries qui ont été remodifiées à cette période-là, et puis notamment au niveau de la galerie, qu'on ira voir un petit peu plus tard.
Alors, on voit effectivement le Châtelet juste devant moi, mais les douves, à quoi ça servait justement?
Alors les douves, donc, ce sont des fossés qui étaient remplis d'eau, hein, qui permettaient bien sûr de pouvoir éviter que le château puisse être envahi. Il peut y avoir jusqu'à 3 à 4 mètres d'eau par endroit dans ces douves, hein, encore à l'heure d'aujourd'hui.
On a dû la jeter tout habillée dans les douves qui étaient gelées.
C'est toujours très pittoresque ces histoires de famille.
Sachant que aussi à l'époque, les petits murets que vous pouvez apercevoir, c'était les grands murs de fortification, hein, donc qui fermaient complètement la bâtisse et y rejoignaient chaque bâtiment de toiture à toiture.
Donc là, on est en train de rentrer dans la cour. Donc nous sommes à moitié enfermés par les bâtiments, donc des bâtiments typiques avec des meurtrières qui nous font penser donc au château. Nous avons aussi des anciennes constructions comme les arches datant du XVIIIe siècle ou encore un ancien puits. Et nous avons un paysage devant nous puisque le mur qu'il y avait avant n'est plus présent. Et nous pouvons même voir tout au fond le Puy-de-Dôme.
On va entrer dans le château. On passe actuellement donc sur trois marches en pierre de Volvic qui se situent juste devant la porte. C'est vrai que c'est un joli clin d'œil à la chaîne des puits.
Une pure merveille, n'est-ce pas? C'est une pierre de taille.
Alors là, on monte les marches de la cage d'escalier du donjon par la droite, hein, donc ce qui est la signature d'un escalier de l'époque Renaissance, puisqu'en fait, c'est à cette période-là qu'on a inversé le sens de la montée. À l'époque médiévale, on les montait par la gauche, puisqu'ils étaient faits pour le combat à l'épée, sachant que la majorité des gens sont droitiers. Donc c'est pour ça qu'on montait par la gauche. Et à partir de la Renaissance, on a changé le sens de la montée, puisque les canons s'étant généralisés, les châteaux fortifiés ont laissé place à d'autres châteaux avec des codes qui avaient changé. Et donc, à partir de ce moment-là, on a changé le sens de la montée, puisque voilà, il n'y avait plus le combat à corps, il se faisait uniquement que dans les duels.
Là, on arrive dans la salle de justice. On vient de monter effectivement par les escaliers en colimaçon. On voit autour de nous donc une vieille cheminée et aussi quelques blasons justement. Alors, je vais laisser notre intervenant Jacques nous en parler.
Alors, en effet, donc on est dans l'ancienne salle de justice. C'était une pièce qui accueillait ces procès de l'époque. On peut voir qu'il y a une pente relativement marquée. Donc, le seigneur était plutôt côté cheminée. Donc, c'est pour ça qu'on a une partie surélevée, si je puis dire, sur le sol avec cette pente. Contrairement donc à celle de la petite porte qu'on a pris, qui était plutôt celle où étaient présentés en général les malheureux qui se retrouvaient sous la justice du seigneur et qui accédaient par cette petite porte. Donc, le seigneur était vraiment placé au-dessus d'eux.
On va essayer de pas se perdre. Alors, normalement, on devrait se retrouver. C'est cette porte, c'est cette porte. S'il y a beaucoup de portes. Là, il y a trois portes à la fois.
Maintenant que nous nous sommes rendus dans certaines salles du château, nous nous retrouvons au coin du feu avec Jacques pour évoquer les anciens propriétaires de la bâtisse. À commencer par Jean et Nicolas Dumas, c'est bien cela ?
Jean et Nicolas Dumas, donc effectivement, qui sont les fondateurs du château en 1230, ont vendu de leur vivant le château et ont cédé leurs privilèges à Archambault VIII, sire de Bourbon. Donc voilà, grand personnage de la première maison de Bourbon. Et le château restera dans la main des Bourbons pendant quelques générations, jusqu'à ce qu'il soit repris aux alentours des années 1470 par Martin et Gilbert Roland, qui sont des gens partis de rien, qui, à force de travail et de bonne fréquentation, ont réussi à se faire anoblir. Et donc, parmi l'escarcelle de leur château, parce qu'ils en avaient plusieurs, ils ont donc acheté le château et donc ont eu les privilèges qui allaient avec. Et voilà, après, les choses font que ça a très vite mal tourné pour eux parce qu'ils ont été trop gourmands et que, ne pouvant pas être à différents endroits à la fois, ils ont placé un fondé de pouvoir sur le territoire de Moulins, qui était censé les aider dans la collecte de l'impôt, qui était un de leurs privilèges. Mais bien sûr, il était très tentant pour le fondé de pouvoir que de partir avec la caisse pleine, puisqu'il savait que ce privilège étant celui des seigneurs, il n'avait absolument aucun compte à rendre en partant avec l'argent vis-à-vis du roi, et que c'était les frères Roland qui seraient bien embarrassés, ce qui fut le cas. Et voilà, une succession de mauvaises décisions fait que malheureusement, ces deux frères finiront par tout perdre. Voilà, donc ils auront laissé quand même leur empreinte dans le château, mais elle aura été plutôt minime. Et après arrive le grand personnage plus emblématique du château, Jacques de Gouzolles du Ludet et les Granges.
Il est important, ce seigneur.
Alors, important, ce seigneur, oui, parce que déjà, sa fonction fait qu'il était, il a été l'un des écuyers de François Ier, roi de France, sachant que François Ier est celui qui a unifié le royaume. Avant François Ier, il y avait des duchés. Et celui des Bourbons, celui voilà qui correspond à l'actuel département du Bourbonnais, est le dernier à s'être rattaché à la couronne, sachant que beaucoup des bourgeois et des nobles, justement des Bourbons, ont en général toujours été dans la cour des rois. Et même certains sont directement issus des rois, puisque de Henri IV jusqu'à Louis XVI, c'était des Bourbons. Bref, en tout cas, pour revenir sur Jacques de Gouzolles, il achète le château en 1528. C'est lui qui a vraisemblablement fait le plus de travaux dans le château, parce qu'on retrouve vraiment son empreinte dans plein des parties de l'époque Renaissance, jusque sur une cloche qui est estampillée de son nom et de l'année 1528 et qui est dans la petite tourelle du Châtelet. On ne peut apercevoir parce que c'est caché par la charpente, mais vous pouvez retrouver aisément sur Internet, sur nos réseaux sociaux, des photos. Et ce seigneur, il a disparu mystérieusement. Et il y a une très sombre histoire derrière, très certainement l'héritage, en tout cas c'est ce que beaucoup ont pensé. Et il a disparu aux alentours de 1500 à peu près 50-55, à un âge plutôt avancé, hein, il avait à peu près une soixantaine d'années. Et on raconte qu'un soir, près du bâtiment du Châtelet, par celui par lequel on est rentré tout à l'heure, il aurait aperçu une fente sur le côté gauche, où il aurait aperçu une poule, un lutin et des œufs d'or. Il s'est approché, la fente s'est refermée, mais la manifestation se serait reproduite et un jour il aurait réussi à y rentrer, elle se serait refermée derrière lui et on n'aurait jamais retrouvé depuis. La légende se poursuit, puisque bien sûr tout le monde parle que de ça, et quelques jours après cette disparition, un paysan aurait aperçu devant le château un fantôme. Il se serait présenté à lui, qui lui aurait dit qu'il était Jacques de Gouzolles, que en fait son âme n'était pas en paix parce qu'il aurait été assassiné quelque part dans le château et que pour le repos de son âme, il fallait le retrouver. Le paysan, relativement interloqué par tout ça, bien sûr, s'empresse d'aller voir le curé du village. À l'époque, c'est un petit peu le maire, hein, c'est un petit peu lui qui retranscrit, qui écoute les doléances des uns des autres. Et donc, il raconte cette histoire au curé qui la retransmet à André de Gouzolles, le neveu par alliance de Jacques de Gouzolles qui héritait de tout, si jamais il disparaissait, puisque Jacques de Gouzolles n'avait pas d'enfant garçon, hein, et qu'on est dans une époque où ce sont les garçons qui héritent. Et quelques jours plus tard, après cette mystérieuse apparition, le paysan sera retrouvé pendu à un âne. Alors certains ont pensé que le paysan avait très certainement affabulé et qu'en fait il avait peut-être plus émis des doutes sur le fait qu'on ait cherché Jacques de Gouzolles dans tout le Teil, mais pas dans le château. D'autres diront que cette apparition s'est bel et bien produite et que Jacques de Gouzolles est toujours quelque part dans le château. En tout cas, Il n'a jamais été retrouvé. On croit à cette histoire folklorique qu'on raconte depuis ou pas, mais ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, ça a tellement fait parler qu'à partir de ce moment-là, pour, on va dire, un petit peu remettre la paix au sein du village, André de Gouzol, le nouvel héritier, fera ériger une très très grande chapelle qui sera accolée sur l'un des grands murs de fortification à 3-4 mètres du château. Et d'ailleurs, la pierre que vous avez pu apercevoir dehors, qui est posée sur quatre piliers, est un reste de la pierre d'autel de la chapelle. Et donc, ça a permis, effectivement, de pouvoir remettre une certaine forme de quiétude dans le village. Après, le château fera parler de lui encore un petit peu, mais pour des histoires de mœurs.
Petit coquin, ne faites pas l'innocent.
Et puis, on va arriver au dernier seigneur au moment de la Révolution. Il était donc Gilbert Marien Lemaître, comte de Lage. Alors lui, l'histoire est assez curieuse parce que il y a deux versions, mais il a aussi réellement disparu. Alors déjà, il faut un peu situer le personnage. Il était réputé acariâtre, radin, très austère, très casanier aussi. Mais donc, on est bien sûr dans le contexte de la Révolution, et certains disent que il aurait été mis à la porte du château par les domestiques qui ne le supportaient plus. D'autres disent que les domestiques l'auraient assassiné. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a du jour au lendemain plus du tout de Gilbert Marien Lemaître, comte de Lage, et donc le château se retrouve à la main des domestiques. Et donc, quelques années plus tard, quand à l'époque de la Restauration, l'État cherchera à indemniser les propriétaires qui auraient pu être lésés, beaucoup de recherches auront été faites, aucune trace de Gilbert Marien Lemaître, comme si c'était vraiment volatilisé lui aussi. Ils retrouveront donc sa fille qui sera indemnisée pour le préjudice, là bien sûr, du château. Et donc là aussi, ça a beaucoup fait parler à l'époque, parce que et ça fait encore un petit peu parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'utilise dans une de nos activités. Mais voilà, c'est pas ce qui est arrivé non plus à ce seigneur. Et à part ça, je vous rassure, il n'y a pas eu d'autres disparitions mystérieuses. Il y en a déjà deux, c'est déjà pas mal.
Peut-être nous, cette nuit.
Verdict demain matin.
Aujourd'hui, vous vous inscrivez dans la continuité de ses propriétaires, puisque le château vous appartient. C'est quoi la vie d'un châtelain en 2023 ?
Alors, je dirais que déjà depuis de nombreuses années, la vie de la plupart des châtelains n'est pas forcément celle qu'on croit. C'est-à-dire que il y a très peu de familles qui ont des châteaux depuis X générations ou qui sont... j'allais dire des descendants de nobles. Donc 90% des châtelains aujourd'hui, ce sont des gens qui sont amoureux de vieilles pierres, qui font un choix de vie, qui se surendettent et qui essayent de sauver ce patrimoine. Et donc mon père, lui, son choix, ça avait été de se dire j'achète ce château et puis on va complètement le restaurer. Et c'était honnêtement quasiment une semi-ruine. Donc il y a eu beaucoup de très gros travaux pour déjà juste enlever la végétation qui était dans les murs, reprendre les toitures, parce que bien sûr c'était vraiment très détérioré. Ensuite, il y a eu un moment de pause. Il y a eu très vite des activités qui ont été créées par mes parents, parce que bien sûr, quand on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, il faut travailler, mais il faut aussi sur ce genre de bâtisse la développer, créer des activités, parce que sinon on n'y arrive pas. Et donc c'est pour ça que très vite il y a eu des activités de chambre d'hôte, puis après plus tard toutes ces activités qu'on propose maintenant depuis quelques années d'escape game, de chasse au trésor. On fait aussi on organise des saisons culturelles l'été, de faire beaucoup de choses pour justement arriver à pouvoir continuer de le développer.
Et au quotidien ?
Alors le quotidien, oui, c'est un quotidien qui est fait de tout un tas de choses qui alternent entre les activités qu'il faut organiser, bien sûr, parce que on a une palette assez élargie, et il le faut, parce que sur des châteaux, sur des territoires ruraux comme le nôtre, il faut vraiment se diversifier pour faire un maximum de rentrées d'argent. Il faut aussi pouvoir vraiment intéresser les locaux, ils aient des choses à faire et fassent vivre ce château. C'est aussi un gros travail, bien sûr, pour bien sûr planifier les restaurations. Alors nous, on a créé une association, donc il y a aussi un gros travail bénévole qui nous aide et qui nous permet aussi d'abord de vivre de très bons moments avec eux. Et c'est une belle aventure humaine, puis aussi bien sûr de réduire la facture, parce que les entreprises, c'est très compliqué, c'est très très cher. C'est un gros coup. Et puis il y a aussi une phase où on travaille, on fait d'autres choses aussi à côté, parce que bien sûr il faut se nourrir, et que on n'a pas encore trouvé nous l'équilibre parfait avec le château qui s'autofinance. J'espère qu'on va arriver dans les 2-3 ans qui viennent à créer, grâce aux rentrées d'argent et aux activités, un équilibre qui fait que il puisse un petit peu, s'autofinancer. Ça n'est pas le cas, donc à côté on travaille aussi. Donc ça fait de très très grosses journées. Voilà. Bon, après, quand on est passionné, on voit les choses différemment. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de boulot.
La nuit tombe sur le château du Max. L'heure du repas arrive. Qu'est-ce qu'on va vivre ce soir? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, ce soir, vous allez effectivement déguster un plat typique du département, qui est donc le pâté aux pommes de terre. Alors, le pâté aux pommes de terre, alors celui que vous allez déguster est un tout petit peu différent que celui qui est le réel plat du Bourbonnais, parce que on le fait à la pâte feuilletée et qu'on ne pratique pas la cheminée pour mettre la crème. Bon, c'est vraiment deux petites choses qui sont pas insignifiantes, mais qui sont quand même relativement à la marge par rapport à ce que c'est ce plat, qui est vraiment un plat simple, mais la plupart des plats du Bourbonnais sont simples, mais très bons. Voilà, c'est des pommes de terre, de la crème fraîche, un petit peu d'oignon, sel, poivre, pâte feuilletée, voilà, c'est très simple et très bon. Donc, vous allez découvrir cette spécialité. À côté de ça, donc, il y aura, une salade, parce que c'est un plat qui tient bien au corps. Donc, on vous propose ça. Après vous, vous allez ce soir, donc, séjourner dans la chambre bleue, on l'appelle ainsi, qui est donc une chambre qui est dans les anciennes écuries. Une chambre qui nous est très demandée depuis que certains youtubeurs sont venus dans cette chambre et ont vu ou ont ressenti des choses. Elle est demandée d'office. C'est parti de Alex et Léonard qui sont très connus et ont l'habitude d'aller dans un lieu atypique. Donc, c'est l'hôtel le plus cher du monde, l'hôtel le moins cher, l'hôtel le plus petit, etc. Mmh. Et donc, ils font toujours des choses un peu comme ça. Et donc, ils m'ont contacté, c'était pendant d'ailleurs, je crois, le Covid ou juste avant. Donc, ils sont venus, je leur ai fait une petite visite, ils ont fait une vidéo que moi j'adore, qui est très sympathique à voir. Après ça, ça a fait exploser les choses parce que dans la foulée est venu JRM Paranormal, qui m'a contacté, qui m'a dit, j'ai vu la vidéo, etc., je voudrais venir. Donc, il a fait sa première enquête. Dans la foulée, Jordan Périgaud, qui est presque le plus connu de France et qui a aussi fait son enquête, très sympa aussi. Vraiment, je vous recommande de tous les voir et je recommande à tous vos auditeurs d'aller les voir. Et voilà, la chambre est à vous. Et puis, vous pourrez me dire demain comment vous avez passé la nuit et si, vous avez ressenti ou pas des choses.
Hormis les chasseurs de fantômes, avez-vous été témoin de quelque chose d'inexplicable ici?
Il y a des années, il y a presque 20 ans de ça, on a fait les photos sans trop se poser de questions. C'était avec les premiers appareils photo numériques. Et puis, on a pu se rendre compte après sur l'ordinateur, en mettant la photo en taille réelle, qu'il y avait une espèce d'ombre, pas trop ce que c'est en fait, qu'il y a devant la petite porte du Châtelet, soi-disant là où serait apparu il y a bien longtemps donc le fantôme de Jacques de Gouzeul qui aurait dit donc aux paysans, etc., il ne pourrait pas tout de même pas les retrouver. Donc, c'est bizarrement à cet endroit-là. Et on aperçoit, on sait pas trop si c'est un moine, etc., mais une espèce de forme blanche. Mais ça se distingue bien sur la photo. C'est un trucage, hein. Moi, j'ai beaucoup de gens avec pragmatique qui m'ont dit, attends, je vais te regarder ça. Ils m'ont dit non, effectivement, la photo n'a pas été retouchée. Certains sont venus en disant, on va revenir à peu près à la même heure pour voir si c'est pas un reflet, etc. Personne n'a jamais pu donner d'explication.
Nous non plus, nous n'avons pas trouvé d'explication à cette étrange photographie. Ce qui est certain, c'est que nous nous sommes régalés pour le dîner.
Nous venons de rentrer de notre promenade nocturne dans le château sous un magnifique clair de lune voilée et nous nous apprêtons à présent à nous coucher. Bonne nuit et à demain.
Alors là, je viens de me réveiller. Et je vais aller réveiller Hugo parce qu'apparemment, il n'est pas encore debout. Je crois que c'est l'heure de débriefer cette nuit. Et franchement, moi, j'ai pas trop mal dormi. Je sais pas ce que t'en penses.
Ah non, j'ai super bien dormi. Enfin, c'est vrai que l'avantage d'un château, c'est qu'il y a des murs épais, donc on n'entend rien de dehors.
Je trouve ça assez beau aussi, l'endroit où on est.
Ouais,
c'est très apparent de partout.
Du coup, c'est assez immersif, ouais. Je suis d'accord.
C'est assez lumineux quand même, mine de rien. Et on n'est pas allé voir l'étage, donc si tu veux, on peut peut-être aller faire un tour. D'ailleurs, on peut voir l'escalier avec une sorte de tapis dessus. Ah oui, ici on est vraiment sur une belle chambre en hauteur avec un lit double place. Et je pense que maintenant on pourra aller déjeuner. C'est parti. Et c'est parti, on va manger.
Vous avez pas vu les bestiaux? Je vous garantis qu'ils viennent pas pour manger des fruits de saison.
Bonjour.
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 Ouais, super.
Super.
Après un copieux petit déjeuner à la française, nous nous apprêtons à reprendre la route. Mais avant, Jacques nous rappelle les principales raisons qui poussent chaque année des centaines de visiteurs à venir découvrir ce sublime château.
Je pense qu'ils pourront prendre beaucoup de plaisir à découvrir un château qui a gardé son âme authentique, qui est tenu par des passionnés Et donc, c'est pas mal pour essayer de transmettre, j'allais dire, à la fois l'histoire du lieu, mais aussi du territoire, découvrir une gastronomie qui, en général, plaît beaucoup, découvrir aussi un territoire qui, par sa richesse visuelle, a vraiment de quoi impressionner et même époustoufler. On a des étangs, des forêts, enfin, on a vraiment une nature qui est très préservée et on a des villes qui ont chacune leur identité, que ce soit Vichy avec ce côté haussmannien beaucoup plus lumineux, on a Moulins avec tout le côté justement médiéval, enfin bref, voilà, on a une richesse qui est très impressionnante et donc si vraiment on veut se dépayser, se ressourcer et se divertir avec une certaine forme d'authenticité, voilà, c'est vraiment le territoire qu'il faut découvrir. Et j'aime bien dire qu'on a tous quelque chose à vivre au Château du Max, parce que bah bon, on propose plein d'activités, de l'escape game, chasse au trésor, etc. On fait aussi des anniversaires, des séminaires d'entreprise, donc concrètement, je vois pas ce qu'on propose pas, donc d'où le slogan. Mais effectivement, voilà, il y a vraiment l'empreinte de la France, et qu'on soit passionné ou pas, on rentre en immersion dans le passé, ça nous permet de relativiser beaucoup de choses et donc c'est particulièrement important et je pense qu'on sort toujours grandi quand on est solide sur ses appuis et sur ses acquis.
Merci à vous Jacques pour cette belle expérience et tout ce que nous avons découvert durant ce séjour.
Il est temps pour nous de quitter ce bel endroit et de retourner chez nous.
Allez, on y va, on a pas mal d'heures de route pour rentrer.
Ouais, et ce coup-là, c'est toi qui prends le volant.
N'oubliez pas de retrouver les liens utiles dans la description de cet épisode. Et pour encore plus d'immersion, venez admirer les photos réalisées lors du tournage sur la page Facebook de notre podcast.
C'était Hippipipora, votre podcast conçu et réalisé par les étudiants de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, spécialisé en activités touristiques de montagne. Ce podcast est produit par VG Organisation. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez continuer l'aventure à nos côtés, abonnez-vous gratuitement à notre podcast. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de diffusion et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi venir liker notre page Facebook. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en Auvergne-Rhône-Alpes.